Depuis 2019, la Pologne est le théâtre d'un conflit géopolitique orchestré par le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. Pour déstabiliser l'Europe, il encourage des milliers de candidats à l'exode venus d'Afrique et du Moyen-Orient à transiter par son pays pour entrer sur le territoire européen. Les migrants, livrés à eux-mêmes, se retrouvent contraints d'escalader le mur de 200 km érigé par le gouvernement d'extrême droite polonais en 2021. De l'autre côté, c'est la plus grande forêt primaire d'Europe, marécageuse, sans fin et inhospitalière. Sur ces 300 km² de forêt, se joue une crise humanitaire majeure. Nous nous y sommes plongés pendant un mois, partant à la rencontre de celles et ceux qui tentent de sauver des vies, de ceux qui les traquent, et des migrants eux-mêmes. Vous écoutez Garçons Sauvages, saison 2, dernier passage. Une série de podcasts en 4 épisodes, diffusée par Blast, en partenariat avec Sésame Musique. 4e et dernier épisode, pris entre deux feux.
Ça fait déjà pas mal de temps qu'on traîne nos pattes à la frontière polono-biélorusse. On commence à s'habituer à cette ambiance de fin du monde. Les supermarchés remplis de soldats armés jusqu'aux dents qui font leurs courses pour la tambouille du soir. La police et l'armée à chaque coin de rue. Les hélicoptères qui survolent la forêt. Les cache-cache au petit matin dans les marécages brumeux. Bon, on a mangé assez de goulash pour tout le reste de notre vie. D'ailleurs, si vous voulez les bonnes adresses du coin, écrivez-nous. Ce matin-là, on a la chance d'avoir une petite discussion avec un infirmier, coutumier des terrains de guerre qui travaille avec Groupe Agranitsa depuis 2 ans. En deuxième partie d'épisode, on prendra un peu de hauteur avec Anna Malchinska, députée européenne et juriste. Donc ici, on est dans l'endroit où vous dormez, vous travaillez, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Mon nom est Michal, je suis infirmier. Je travaille comme secouriste depuis 2 ans à la frontière. Et je fournis de l'assistance médicale aux gens en itinérance.
Vous dites que vous êtes ici depuis 2 ans?
Oui.
Je suppose qu'il y a de plus en plus de monde.
Aussi loin que je puisse remonter, j'ai l'impression que le nombre de gens augmente chaque année.
Et quelles sont les blessures les plus courantes, les maladies, et comment les traitez-vous?
Ça dépend. La majorité des blessures est en relation avec la barrière de séparation, parce qu'elle fait 5 mètres de haut, et qu'elle est surmontée de barbelés qui coupent la peau. Et les gens qui passent cette barrière, la plupart du temps, ils tombent au sol, parce qu'ils sont stressés et pressés par le temps. Ils peuvent se casser une jambe, se fouler une cheville, se fouler différentes articulations. Et bien sûr, parfois, il est possible qu'ils aient des problèmes internes. Le foie ou des problèmes liés à l'estomac. Ils doivent être transportés immédiatement à l'hôpital pour leur prodiguer des diagnostics un peu plus approfondis parce que dans la forêt... Oui, je suis très limité. Aux chutes, le fait de tomber. Imaginez que votre corps fasse une chute de 5 mètres. Tous vos organes sont traumatisés.
You got it. It's like you can take the liver. Yeah, you can take the liver or.
Vous prenez le foie, le cœur ou les reins par exemple, et vous les lancez contre, enfin juste pour l'image, et vous les lancez contre un mur. C'est vraiment très puissant. Et il se passe la même chose dans votre corps. Vous me comprenez?
Oui, je vous comprends. C'est juste que pour nous, c'est très difficile à imaginer. Et apparemment, ça arrive souvent.
Ça arrive souvent, oui. Parce que le mur est présent tout le long de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.
Et quels autres symptômes rencontrez-vous?
Comme l'accès à la nourriture et à l'eau est très limité pour ces gens en Biélorussie, ils boivent l'eau des marécages.
Ok, comme le mec que vous nous avez montré?
Comme le garçon que je vous ai montré il y a quelques minutes. Ça lui est arrivé.
Oui, je parle de ça parce que vous venez de nous montrer une photo d'un garçon. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé?
Autant que je sache, ça arrive souvent. Comme ils n'ont pas d'eau propre et qu'ils n'ont pas la possibilité d'en acheter, ils consomment l'eau des marécages, qui est comme un poison. Il y a beaucoup de bactéries dedans, comme par exemple les Escherichia coli. Et ça leur cause beaucoup de problèmes d'estomac.
Hello.
Cześć. On l'écoute parler, on le regarde ranger son matériel dans cette grande chambre austère et sombre, et on comprend que le mur n'est pas seulement là pour entraver le passage. Il est là pour mutiler, dissuader par la douleur. Mieux vaut cependant tenter sa chance avec lui plutôt qu'expérimenter torture et viol du côté biélorusse. Quel genre de traitement pouvez-vous prodiguer directement sur le terrain?
Je peux leur donner des antibiotiques. Je peux les faire transférer à l'hôpital s'ils le souhaitent. Et j'essaie de juger si leurs conditions physiques les autorisent à continuer leur voyage. Voici ce que j'essaie de faire. Parfois, je peux les hydrater par intraveineuse. Ça dépend de leurs conditions.
Et qu'en est-il des blessures causées en Biélorussie? Les chiens, les armes?
Oui, je vois les conséquences des agressions causées par les gardes frontières biélorusses. Très souvent, je rencontre des blessures causées par des morsures de chiens. Les Biélorusses battent très souvent les migrants, parfois jusqu'à ce qu'ils meurent. Les migrants nous rapportent que s'ils ne franchissent pas la frontière, les gardes biélorusses les menacent de les frapper. Et ils les frappent jusqu'à ce qu'ils meurent.
Ils en font des exemples?
Oui. Il y a 2 mois, ils ont attrapé un Éthiopien. Il était très jeune, environ 20 ans. Et ils ont mis sa tête dans le marécage. Et il est mort noyé. Et ils ont dit à toutes les personnes qui étaient témoins de l'incident que s'ils n'allaient pas en Pologne, ils les tueraient tous. Et j'ai entendu ce genre d'histoire dans la forêt de la part de différents groupes. Pas juste un seul. De différents groupes dans la forêt. Et ils n'étaient pas connectés entre eux.
Et quel est l'aspect le plus difficile de votre travail?
Le plus difficile? Je pense qu'il y a beaucoup de choses difficiles dans ce travail. Car quand je rencontre des personnes et que je dois améliorer leur état, mais que leur état n'est pas assez bon pour qu'ils soient en mesure de marcher, je dois appeler une ambulance. Et quand l'ambulance arrive, l'équipe de l'ambulance vérifie les signes vitaux de ces gens, qui s'avèrent être plus ou moins bons. Et donc, la personne n'a pas à être transportée à l'hôpital. Et donc, l'équipe de l'ambulance remet les migrants aux gardes frontières, qui, à leur tour, les remettent du côté biélorusse. Donc, je dois trouver un équilibre et ne pas trop améliorer leurs conditions, parce que... ils seront refoulés en Biélorussie. Quand je vois ce genre de cas, je dois prodiguer des soins, mais pas suffisamment pour que le patient aille vraiment mieux. Donc, je ne fais pas grand-chose. J'appelle alors une ambulance. Et là, il y a une chance qu'ils l'emmènent vers l'hôpital et qu'ils reçoivent des soins appropriés.
Oui, donc vous devez être malin et intelligent dans la manière dont vous travaillez.
Oui, l'expérience. C'est plus ou moins une question d'expérience. Nous, les secouristes, nous avons certains équipements en rapport avec notre travail, mais qui ne fonctionnent pas vraiment ici, dans la forêt. Dans 90% des cas, je devrais faire emmener ces gens que je rencontre dans la forêt pour aller à l'hôpital.
Lié à leurs conditions.
Au vu de leurs conditions. Oui, je ne peux pas. Parfois, j'ai peur de faire ça parce que ça arrive aussi que la personne que vous faites transporter à l'hôpital passe des examens plus approfondis, grâce aux équipements que nous pouvons trouver aux urgences. Après un jour ou deux, elle est réhydratée. Les personnes de l'hôpital lui donnent de la nourriture. Et évidemment, elle se sent mieux. En meilleure forme. Mais là, elle est remise aux gardes frontières. Et ils la remettent du côté biélorusse.
Honnêtement, après ces quelques minutes de conversation avec lui, on comprend l'abnégation du personnage. Sa détermination impose le respect. 2 ans. 2 ans à s'enfoncer nuit après nuit dans la forêt, avec pour objectif de sauver une ou quelques vies, de changer un destin. On imagine que vaguement l'intensité de chaque face-à-face au fond des marécages.
Considérez-vous cette situation comme très difficile ?
Oui, c'est totalement différent. Dans le passé, quand je travaillais officiellement, je n'avais pas à me cacher. Donc, je n'étais jamais seul quand j'examinais quelqu'un. Même quand j'étais, je ne sais pas, en Éthiopie, au Tadjikistan, en Ukraine, nous étions toujours à travailler en équipe, avec des docteurs, dans de réels hôpitaux, dans des conditions normales. Et ici, je suis seul. Je dois prendre des décisions seul, me cacher. Parfois, faire 8 heures de marche pour me rendre jusqu'à la personne, ce qui est aussi très épuisant. Et je dois prendre tout le matériel dont j'aurai besoin quand j'atteindrai la personne. Je dois juste avoir avec moi l'équipement qui tient dans mon sac. Oui, donc durant la nuit, nous ne pouvons pas utiliser de lampes. Nous ne pouvons pas emprunter les routes. Nous devons nous cacher en permanence. Parce que si les militaires ou les gardes frontières nous voient, ils peuvent nous suivre et trouver les migrants. Et au lieu de leur prodiguer des soins, nous leur apportons un retour immédiat en Biélorussie.
Observez-vous des différences de blessures entre les enfants, les femmes et les hommes ?
Pas beaucoup. Les choses les plus fréquentes pour les femmes, elles nous racontent que les gardes frontières biélorusses les ont violées. Oui. Mais il n'y a pas de différence. Ils ont des blessures causées par les coups. Non, il n'y a pas de différence.
Quand vous parlez de viol, c'est ce que les gens vous rapportent ou vous le voyez physiquement de par vos observations?
Pour observer cela, c'est difficile. Parce que je ne contrôle pas physiquement si les femmes ont été violées ou non. Mais si elles me font assez confiance, elles me le disent. Mais c'est assez fréquent qu'elles le fassent. Et il y a aussi les hommes qui étaient du côté biélorusse qui nous rapportent, souvent, que les gardes frontières ou soldats biélorusses violent les femmes. Pour moi, cette partie biélorusse, qui est le système 1, nous l'appelons le système 1. Vous connaissez le système 1?
Le système 1 est un no man's land militarisé entre la Pologne et la Biélorussie.
Il est totalement dépourvu de loi. Il n'y a aucun accès pour les humanitaires. Il n'y a personne qui peut aider les gens de ce côté-là. Il n'y a vraiment aucune loi. Ces militaires et ces gardes frontières peuvent faire ce qu'ils veulent avec ces migrants. Désolé. Allô, oui, j'écoute. Désolé les gars, je dois y aller. Je viens d'avoir une demande. Nous devons être là pour cet homme.
Je vais vous aider avec le micro. Merci pour votre temps.
Aucun problème.
On laisse Michal, l'infirmier, courir vers l'enfer qui l'attend. De notre côté, pas de temps à perdre. On prend la route en direction de Varsovie. Anna Malchinska, députée et juriste polonaise, nous accorde une entrevue malgré son emploi du temps de ministre. On peut clairement pas manquer ce rendez-vous. Il nous faut prendre un peu de recul avec elle et tenter de cerner les enjeux majeurs de toute cette histoire.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Peut-être pouvez-vous brièvement vous présenter.
My name is Hanna Machinska. At the moment, well, I'm a lawyer.
Oui, je m'appelle Anna Machinska. Actuellement, je suis avocate et je travaille à l'Université de Varsovie. Mais depuis 2022, j'ai passé 5 ans en tant que députée commissaire adjointe aux droits de l'homme en Pologne. Mon principal intérêt jusqu'à présent a été la frontière avec la Biélorussie. Tous les lieux de détention et la frontière avec la Biélorussie. Je suis maintenant encore assez impliquée dans ce domaine. J'ai rejoint le comité Helsinki, le conseil du comité Helsinki et la fondation Bathory.
Yeah. Okay. So as I said, the first moment, very dramatic moment, it was a moment of Usnaj.
Donc, comme je l'ai dit, le premier moment très dramatique, c'était celui des gens d'Usnaj, des gens dans des conditions très très précaires, provenant de différents pays, et un rejet total des autorités polonaises de les aider dans leurs besoins primaires. Même la Cour européenne des droits de l'homme a demandé aux autorités polonaises de faire quelque chose et de les aider. Et c'est notre obligation, en tant qu'État membre du Conseil de l'Europe, de nous conformer à ces règles de la Cour européenne des droits de l'homme, en particulier les jugements et les mesures provisoires. Mais ça a été à moitié fait. Donc, ils ont mis un camion d'aide humanitaire, mais trop loin de la frontière. Donc, sans aucun effet réel pour aider les gens. Mais l'étape suivante a été la déclaration de l'état d'urgence. En l'occurrence, l'état d'urgence signifiait d'éloigner les gens de la frontière. Tout d'abord, il était absolument impossible pour les médias d'entrer dans la zone proche de la frontière, ainsi que pour les activistes et les autres personnes.
So the emergency state covered 183 small towns and villages.
L'état d'urgence a couvert 183 petites villes et villages. La seule institution totalement habilitée à entrer dans ce territoire était la Commission des droits de l'homme.
So we are the only one public institution with such
Donc, Nous étions la seule institution publique avec cette possibilité. Ensuite, il y a eu de nombreuses discussions jusqu'à maintenant, et une décision de la Cour a conclu que la déclaration de l'état d'urgence n'était absolument pas conforme à la Constitution.
So we, I remember a very, very special moment in November, November 2021.
Je me souviens d'un moment très spécial en novembre 2021, quand la commissaire aux droits de l'homme est arrivée en Pologne et qu'elle voulait visiter tous ces endroits critiques. La commissaire du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic, a visité tous ces endroits, dont Pédouza, et enfin la Pologne. Et nous avons appris pendant sa visite qu'un groupe de personnes en provenance d'Éthiopie et d'autres pays se trouvait à environ 60 km de notre position. Et nous avons décidé de nous y rendre ensemble. Elle a participé directement à l'action de sauvetage. Eh bien, elle a pu observer l'attitude horrible des gardes-frontières et la discussion entre nous et les gardes-frontières qui refusaient d'aider les gens. Mais notre idée était de permettre aux gens de commencer la procédure, de demander la protection internationale. Eh bien, nous avons réussi à sauver ces gens. Ils ont pu demander la protection internationale.
Dunja Mijatovic, the commissioner, after her visit, she published a recommendation saying that
Dunja Mijatovic, la commissaire, après sa visite, a publié une recommandation disant que les renvois forcés sont strictement interdits. C'est contraire au droit international. Et de plus, dans les discours publics, les autorités utilisent des mots très durs contre les migrants. Ils disent que les migrants sont comme des animaux. Il y a eu la fameuse conférence de presse où le ministre de l'Intérieur, horrible ministre de l'Intérieur, a parlé d'un comportement zoophilique. Et il a dit: nous avons un film montrant qu'ils sont des criminels. Et le chef du parti Droit et Justice, M. Kaczynski, a dit que ces gens apportent en Pologne des insectes, des maladies, et que nous devons être très prudents. Donc, vous savez, ce discours public était absolument... Eh bien, ils ont essayé de détruire la mentalité des Polonais et de créer une sorte de peur vis-à-vis des migrants. C'est une partie très horrible de notre histoire et de nos attentes. Avant tout, ce qui était évident pour les Polonais, c'est qu'il était nécessaire de changer la loi. Il y a deux lois très importantes. La première est l'ordonnance du ministère de l'Intérieur qui donne une sorte de base juridique, une soi-disant base légale pour les renvois forcés. Et la deuxième loi est un amendement à la loi sur les étrangers, le droit des étrangers. Et cette loi crée une sorte de procédure qui viole la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que... eh bien, ils ont dit, d'accord, si un garde frontière trouve quelqu'un à la frontière et que cette personne déclare qu'elle a besoin d'une protection internationale, le garde frontière peut, utiliser le renvoi forcé. Bien sûr, ces personnes peuvent faire appel, mais sans effet suspensif. Cela signifie que ces personnes seront renvoyées en Biélorussie. Et, eh bien, la plainte est en attente. Donc, l'effet de telle plainte est quasiment nul. Philippe et González Morales, avocat spécialisé en droit international des droits de l'homme, a donc lancé un appel aux autorités polonaises pour qu'elles modifient une loi et qu'elles changent le traitement réservé aux réfugiés.
À l'étranger, cette mesure choc adoptée en Pologne.
Extrait Europe 1. 16 juillet 2024.
Les forces armées peuvent désormais ouvrir le feu sur les migrants qui passent la frontière illégalement.
La crise migratoire à la frontière biélorusse s'aggrave encore. Après la mise en place d'une zone tampon à la frontière, le gouvernement polonais vient d'élargir la semaine dernière les prérogatives militaires. Concrètement, les gardes-frontières peuvent désormais tirer à vue. Les humanitaires s'inquiètent, William Molinier, mais cette nouvelle loi a pourtant fait consensus auprès des parlementaires polonais.
Oui, puisque 401 députés ont voté pour, 17 seulement s'y sont opposés. En clair, le texte permet d'exonérer de toute responsabilité les militaires qui utilisent leurs armes à la frontière, que ce soit dans le cadre de la légitime défense ou même de manière préventive, dès lors que la vie ou la liberté des forces de l'ordre sont menacées en raison d'une violation de la frontière de l'État. L'interprétation du texte est large, il est vivement critiqué par plusieurs associations qui voient là un permis de tuer. Cette loi intervient après plusieurs incidents à la frontière. En mars dernier, 3 soldats polonais avaient tiré à balles réelles sur des migrants avant d'être poursuivis par la justice de leur propre pays. Plus de 17 000 tentatives de passage clandestin ont été recensées par les autorités depuis le début de l'année. Minsk et Moscou sont régulièrement accusés de déstabiliser cette frontière de l'Europe en maintenant volontairement une forte pression migratoire.
You mean that the cruelty of the border guards on the local police?
Pensez-vous que les agissements des gardes frontières et des militaires sont en lien direct avec les choix politiques polonais ou européens?
Absolument. Eh bien, quand on parle de cruauté, il n'y a aucun doute sur le lien direct avec les politiciens. D'abord, vous avez une très forte propagande, une propagande bien organisée dans les médias. Eh bien, vous devez savoir que les médias publics sont totalement entre les mains du parti du pouvoir. Donc, chaque jour, goutte à goutte, eh bien, nous avons appris que les réfugiés étaient une catastrophe pour la Pologne. Qu'ils apportent tant de maladies et ainsi de suite. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, dites-moi, pour vous, la Biélorussie est-elle un pays sûr ou un pays dangereux? De notre point de vue, nous avons une politique étrangère. Donc, comment traiter avec la Biélorussie? Eh bien, c'est OK. Nous devons renvoyer ces gens en Biélorussie et ça ne fait rien que ce soit un pays sûr ou non. Je ne suis pas très optimiste. J'ai bien peur que cela ne s'améliore pas. Et d'un certain point de vue, ils sont entièrement convaincus que la Biélorussie est un pays dangereux. Et ils savent, la Convention de Genève, ils savent que les autorités sont pleinement conscientes du cadre juridique international. Et ce qu'ils font est totalement contraire au cadre juridique international et aussi à la constitution polonaise.
Ce qu'on peut lire en filigrane à travers les propos d'Anna Machinska, c'est un rapport de force qui se dessine entre la Pologne, poussée par la polarisation de sa société, et l'Europe, qui malgré ses traités et la nécessité de faire respecter l'état de droit, voit son centre de gravité pencher à droite sous la pression migratoire, quitte à faire fi des droits de l'homme.
Do you mean that this
Voulez-vous dire que cette crise migratoire en Pologne, ou en Europe en général, fait reculer le niveau de la démocratie en Europe et l'attention portée aux droits de l'homme ?
Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il y a un manque de politique adéquate de la part de l'Union européenne. Si vous comparez le Conseil de l'Europe et ses normes solides, des normes claires, le renvoi forcé est illégal. On ne peut pas l'utiliser. La Pologne n'est d'ailleurs pas le seul pays. La Hongrie aussi, et d'autres pays. Mais du côté de l'Union européenne, eh bien, et j'ai parlé personnellement avec Madame Ylva Johansson, la commissaire, et nous avons parlé de la situation. Et nous avons imaginé deux possibilités pour réagir. La première est bien sûr la violation des droits de l'homme, la violation du traité de l'UE, la violation de la charte des droits fondamentaux. Et c'est évident. Mais la deuxième possibilité est la violation de la loi Natura 2000.
Et Białowieża Forest belong to the.
La forêt de Białowieża fait partie d'une zone très protégée de Natura 2000. Et plus de 1000 experts en environnement ont envoyé un appel à la Commission. Regardez, vous devez lancer une procédure contre la Pologne pour violation des normes environnementales. Pas de réaction, pas de réaction. Imaginez qu'il n'y a même pas un seul dossier polonais à la Cour de justice de l'UE. Car les juges m'ont dit, nous ne pouvons pas lancer l'affaire, car qui peut initier et quelle institution peut initier la procédure ? Seule la Commission peut initier la procédure, et la Commission ne s'y intéresse pas.
Selon votre longue expérience dans la défense de la démocratie chez Human Rights Watch, que pensez-vous de l'avenir de cette situation ? Est-ce que vous pensez qu'elle va s'améliorer ou non ?
Eh bien, je pense que cela va empirer de plus en plus. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Très bientôt, nous aurons probablement des réfugiés climatiques. Et c'est naturel que les gens cherchent un endroit sûr. Il n'y a pas de véritable... Enfin... Ce qui est étrange pour moi, parce qu'en Pologne, par exemple, d'un point de vue démographique, nous avons besoin de gens. Notre société est de plus en plus petite. Beaucoup de gens ont décidé de quitter la Pologne pour d'autres pays de l'UE. Et c'est pourquoi nous avons effectivement besoin de gens. Mais en même temps, partout, la migration est une arme politique. Vous pouvez utiliser la migration dans un discours politique pour dire « Ok, nous sommes sous pression de ces migrants qui vont consommer notre argent et ainsi de suite. »
It is so unequal situation
Et c'est pour eux une situation tellement déséquilibrée qu'ils ne peuvent pas réagir correctement. Donc, nous essayons de le faire. Nous essayons de dire au grand public que ce message venant des autorités, c'est comme des fake news. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas tolérer. Bien sûr, je dois dire qu'il n'y a pas de telle propagande en ce moment. Eh bien, du moins, les autorités n'utilisent pas la migration comme une arme politique. Effectivement pas. Mais sans une véritable aide de l'Union européenne, la situation ne changera pas.
En cette fin de reportage, on a un peu l'impression étrange d'avoir passé 4 semaines dans un coin reculé de la planète, au milieu d'un conflit interminable et oublié. C'est pourtant bien l'Europe qu'on avait choisie pour notre 2e saison. À 2 heures de Paris en avion seulement, se trame des histoires qu'on aurait pensé définitivement reléguées à des époques sombres de notre continent. Incroyable rencontre avec les activistes qui, toutes générations confondues, ont abandonné leur existence normale pour aller se terrer dans une petite maison en bois à la lisière de la forêt primaire. Chaque vie humaine sauvée par l'un d'entre eux, c'est un peu de l'humanité de l'Europe qu'on sauve avec. Alexandra, Anna, Rafao, l'infirmier et tous ces habitants qu'on a rencontrés, qu'ils le veuillent ou non, cette crise fait partie de leur vie désormais. Et elle les a changés. Les expatriés qu'on retrouve au fin fond de la forêt, des quasi-personnages de romans, on en lit la trame dans les journaux ou à la radio aux 4 coins de l'Europe tous les matins. On s'imagine des cordes de migrants se pressant aux frontières, opportunistes et volontaires. Pressés par la guerre, la misère, les crises du capitalisme, ils ont été poussés de pays en pays avant de se retrouver pressés à escalader le mur de la honte, piégés par des enjeux géopolitiques qui les dépassent. On va maintenant quitter la Pologne avec beaucoup de ces visages en tête, et on n'est pas prêt de les oublier. Merci à tous nos auditeurs et à ceux qui ont aidé à la réalisation de ce podcast. Alexandra et toute l'équipe de l'ONG Groupe Agranitsa. Agnieszka, fixeuse. Rafał Kowalski. Michel, l'infirmier. Anna Machinska. Doublage des voix françaises. Sandy Le Foll. Benjamin Louis. Karl Gravier. Flore Lefebvre des Noëttes. Traduction des voix originales. Suzanne Anouk et Karl Gravier. Et nous, on se retrouve dans quelques mois pour un 3e opus, un peu plus loin sur la planète. Allez, salut!
Venez d'écouter Garçon Sauvage, saison 2, dernier passage. Une série de podcasts en 4 épisodes, diffusée par Blast. C'était le 4e et dernier épisode, pris entre deux feux. À la réalisation, Basile Crespin, Louis Lemaire Depas et Chanel Le Foll. Travail journalistique et production éditoriale, Basile Crespin et Louis Lemaire Depas. Enregistrement et post-production, Chanel Le Foll. Une production Garçon Sauvage en partenariat avec Sésame Musique.
Sauvage, podcast du bout du monde.